Amérique, il est 6 heures, temps universel.
Bonjour à tous, chez Robin Dorsil pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition pour l'Afrique de l'Ouest. La Guinée se prépare pour une nouvelle journée de manifestation de l'opposition.
Il n'y a aucune raison aujourd'hui qui amène les partis de l'opposition dans la rue.
Alousène Makanera Kaké, membre de la coalition RPG Arc-en-Ciel en Guinée. La secte Boko Haram a démenti toute implication dans l'enlèvement de 7 Français au Cameroun. Et la fête du cinéma se poursuit à Ouagadougou.
J'ai pas fait de grandes études de cinéma, mais par contre, il est bien accueilli ici. Et donc, c'est ma manière aussi d'apporter une pierre déjà à l'élite qui sont déjà engagés ici au Burkina Faso.
Nous écouterons la cinéaste burkinabé Zalissa Zongrana. Ici aux États-Unis, solide majorité démocrate pour ratifier l'arrivée du républicain Chuck Hagel à la tête du Pentagone. Tout d'abord, le point de l'actualité avec Nicolas Pinault.
Bonjour à tous. Une voiture piégée a explosé hier soir à Kidal, dans le nord du Mali, ville où des troupes françaises sont présentes. L'attentat suicide aurait fait plusieurs morts, selon différentes sources. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. On ne sait pas si ce sont les troupes françaises ou les rebelles Touareg présents dans la ville qui étaient visés. Toujours au Mali, les États-Unis ajoutent à leur liste antiterroriste le chef du mouvement islamiste en sardine. Iyad Agali est visé pour ses liens étroits avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ses avoirs éventuels aux États-Unis sont par conséquent gelés et les Américains n'ont plus le droit d'effectuer des transactions avec lui. Dans un communiqué, le département d'État indique que les membres d'en sardine se sont livrés à du harcèlement, de la torture et des exactions contre les citoyens maliens qui s'opposaient à leur volonté. À Conakry, Alpha Condé a confirmé hier la nomination du général de brigade Namori Traoré au poste de chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Namori Traoré, qui était chef d'état-major général adjoint, avait été désigné pour assurer l'intérim à la tête de l'armée guinéenne suite à la disparition du général Souleymane Khelefa Diallo. C'était le 11 février dernier dans un crash près de Monrovia. 6 marins enlevés au large des côtes nigérianes la semaine dernière ont été libérés. Le chef de la police de l'état de Bayelsa a annoncé hier qu'ils ont été libérés sans versement de rançon. Les otages, un russe, 2 indiens et 3 ukrainiens, avaient été kidnappés par des hommes armés avec leur navire. Les pirates avaient demandé une rançon de plus $1 million. Et la Cour pénale internationale a accepté hier de reporter le procès de 4 leaders kényans accusés de crimes contre l'humanité. Les 4, dont Uhuru Kenyatta, candidat à l'élection présidentielle du 4 mars, avait demandé ce report. Le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a laissé entendre que le procès pourrait être remis jusqu'en août, après les vacances d'été de la Cour. Uhuru Kenyatta, son codicier William Ruto et 2 autres Kenyans sont accusés d'avoir organisé les violences ethniques après les élections de 2007.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le reste du monde, la Maison-Blanche appelle Mohamed Morsi à protéger les principes démocratiques à l'approche des prochaines élections en Égypte. Selon le communiqué, Barack Obama a téléphoné à son homologue pour lui rappeler sa responsabilité de protéger les principes pour lesquels les Égyptiens se sont battus, notamment les droits des femmes et des minorités religieuses. Hier, le principal parti d'opposition a annoncé son intention de boycotter les élections législatives d'avril prochain. Le leader du Front National du Salut, Mohamed El Baradei, avait appelé la semaine dernière à ne pas se rendre aux urnes, dénonçant une mascarade démocratique. Les grandes puissances du groupe 5+1 et l'Iran ont achevé hier leur première journée de négociations sur le programme nucléaire iranien à Almaty, au Kazakhstan, et ces pourparlers vont se poursuivre ce mercredi. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, les 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que l'Allemagne, ont eu une réunion utile avec l'Iran, selon des sources proches du dossier. Dans une nouvelle offre, le groupe 5+1 promet une baisse de certaines sanctions sur le commerce de l'or, celles concernant l'industrie pétrochimique et certaines sanctions bancaires en échange de concessions de Téhéran. Cette offre est conditionnée par l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium à 20%, la fermeture du site de Fordo et l'envoi du stock d'uranium enrichi à l'étranger. À Washington, le Sénat américain a confirmé hier la nomination de l'ancien sénateur du Nebraska, Chuck Hagel, au poste de secrétaire à la Défense. Un vote à 58 voix pour et 41 contre. Le président Obama a salué le vote qui nomme, je cite, « un secrétaire à la Défense dont le pays a besoin et le leader dont les troupes méritent ». La Maison-Blanche parle d'un vrai patriote américain. Élections législatives italiennes, la France et l'Espagne ont exprimé leurs inquiétudes après le résultat du scrutin qui pourrait entamer la confiance dans l'économie italienne et dans la zone euro. La coalition de centre-gauche dirigée par Pierluigi Bersani a remporté la chambre basse, mais devance légèrement le parti de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi. Au Sénat, c'est l'égalité presque parfaite entre les différentes forces politiques. La surprise est venue du mouvement 5 étoiles dirigé par l'ancien comique Beppe Grillo, qui occupe la troisième place à la chambre basse. Enfin, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov ont tenté hier de rapprocher leurs positions sur la Syrie lors d'une rencontre à Berlin, alors que Moscou pressait l'opposition syrienne de négocier avec le régime du président Bachar el-Assad. C'était la première rencontre entre les deux hommes depuis la nomination du nouveau secrétaire d'État américain, et M. Kerry a qualifié ces discussions de constructives. Au même moment, de violents combats se poursuivaient hier dans le nord de la Syrie, dans l'enceinte de la grande mosquée des Omeyyades à Alep, joyau historique de la deuxième ville de Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Merci Nicolas Pinault. Le Monde aujourd'hui, une édition de La Voix de l'Amérique pour l'Afrique de l'Ouest, chez Robin Dorsil à Washington. Première escale ce matin, la Guinée-Conakry. C'est un thème presque trop familier, l'opposition guinéenne appelant le peuple dans les rues pour forcer le gouvernement du président Alpha Condé à organiser des élections transparentes. Ce mercredi, un mot d'ordre similaire est lancé. Non à l'opérateur Waymark et oui pour le droit de vote des Guinéens de l'étranger, disent les leaders de l'opposition. En début de semaine, Aboubakar Sila l'avait ainsi expliqué.
Voyant la façon dont la CENI est gérée, voyant les violations répétées du code électoral, de la loi portant composition de la CENI ainsi que du règlement intérieur de la CENI elle-même, nous avons compris que c'était une mascarade électorale qui se préparait et nous ne voulons pas cautionner cette fraude massive qui va amener probablement à l'Assemblée nationale des députés qui ne reflèteront pas le suffrage que les Guinéens vont exprimer le jour du vote.
Chez les partisans du pouvoir, on appelle au strict respect de la Constitution, notamment en ce qui concerne le vote de la diaspora guinéenne. Quant à la manifestation de ce 27 février,
simplement une manœuvre dilatoire pour empêcher la tenue des élections législatives.
Aloucène Makanera Kake est un membre de la coalition RPG Arc-en-Ciel.
De l'autre côté, je veux parler de l'opposition radicale qui est composée seulement des anciens premiers ministres. Ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant des dizaines d'années, c'est ce que le président, le professeur Alpha Condé, arrive à faire en sous peu de temps. Ils sont convaincus, une fois l'Assemblée nationale installée, cela va encore renforcer les acquis de ce régime. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Sinon, il n'y a aucune raison aujourd'hui qui amène les partis de l'opposition dans les rues. J'ai eu la chance de participer au dialogue politique inclusif au Palais du Peuple. Toutes les questions sur lesquelles l'opposition avait posé des revendications ont été résolues à 100%.
Monsieur Kake, l'opposition cependant, comme nous l'a dit Aboubakar Sila il n'y a pas longtemps, n'a eu qu'une recomposition partielle de la CENI sur la question du fichier électoral. Ils se posent des problèmes, ils ne veulent pas de l'opérateur Waymark et autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
C'est qu'ils posent le problème de Waymark. C'est Savary Technologies qui a participé à un appel d'offres et il a remporté. Ils ont dit aussi dans les rues de Conakry que c'est le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a fait venir Waymark. Ce qui est absolument faux, parce que le Waymark a participé à un appel d'offres du 3 juin 2010. C'est pour vous dire que ce n'est pas le président qui a amené Waymark, il l'a trouvé sur place. Mais fondamentalement, Waymark a fourni les kits et assure la maintenance. C'est Savary Technologies qui a recruté les opérateurs de saisie qui travaillent sur le terrain pour faire la saisie.
Revenons à la manifestation de ce mercredi. Presque à chaque mouvement de ce type en Guinée, surtout à Conakry, il y a crainte de dérapage, de violence. Que prévoyez-vous pour aujourd'hui?
La Constitution, dans son article 2, a donné la possibilité à tous les Guinéens de pouvoir organiser des manifestations des portes. Mais le dernier paragraphe de la Constitution, de l'article 10 de la même Constitution, puisque tous les Guinéens aussi ont la liberté de circuler et de s'établir sur n'importe quel point, c'est pourquoi nous allons inviter l'opposition non seulement à respecter cette disposition constitutionnelle, mais faire en sorte aussi, lorsqu'il y a les dérapages, que les responsables soient sanctionnés à la hauteur de la procédure.
Aloucène Makanera Kake de la coalition RPG Arc-en-Ciel que j'ai joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry, en Guinée, sur Radio Gangan 101.1 et sur Sabary FM 97.3.
Au Mali, 5 soldats maliens ont été arrêtés à Tombouctou et transférés à Bamako. Ils avaient rendu visite à des commerçants arabes de Tombouctou qui sont toujours portés disparus. L'armée malienne avait été accusée d'avoir mené des exactions pendant les opérations de reconquête du Nord. Le capitaine Modibo Nama Traoré, porte-parole de l'armée malienne.
À la suite des enquêtes menées concernant les exactions à Tombouctou, la dernière provinciale a procédé le 16 février dernier à l'interpellation de 5 militaires, dont 2 sous-officiers et 3 caporaux. Et ces militaires ont été conduits à Bamako. Des dispositions disciplinaires sont en train d'être prises à leur encontre. Donc il va y avoir un conseil de discipline. S'il s'avère qu'ils sont fautifs, nous allons quand même les radier du contrôle effectif et les mettre à la direction de l'Asie.
De quoi est-ce qu'ils sont soupçonnés?
D'exactions sur quelques commerçants arabes de Tombouctou.
Quel genre d'exactions?
Il semblerait qu'ils auront une visite à ces arabes-là et depuis lors, on ne voit pas ces arabes. Donc, on se dit que si ces arabes ne se signalent pas pendant un certain temps, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Donc, maintenant, c'est la suite de l'enquête qui va nous définir. Quelle est réellement la nature de leur faute?
On les a arrêtés sur la base de personnes qui sont portées disparues.
Qui était à Tombouctou et à qui quelques militaires l'ont rendu visite.
Est-ce qu'il y a d'autres arrestations, comme par exemple dans la région de Sévaré ou de Kona?
Non, il n'y a pas d'autres arrestations, mais là, en fait, c'est maintenant que nous avons décidé de prendre à bras le corps quand même cette situation, parce que c'est vrai, nos militaires doivent au moins essayer de respecter les directives strictes que nous avons ordonnées fermement à nos troupes, c'est-à-dire de ne pas faire d'actes de représailles. Le président de la République l'a encore rappelé. Dans ce discours du 2 février 2013, lors de la venue du président de la République française, il ne faut pas faire, il ne faut pas répondre à l'élitisme par l'élitisme. Nous comprenons que ce sont les militaires, quand même, qui étaient d'abord déployés, qui étaient employés dans ces localités-là, dans les 3 régions militaires du Nord. Et ils ont tout perdu au cours d'avancée, quand même, des groupes terroristes. Ils ont tout perdu. Donc, certains sont venus seulement avec leur simple habit, les habits qu'ils portent. Maintenant, ils ont perdu tout leur matériel, tout ce qu'ils ont. Ils ont vendu sur des personnes, quand même, sur qui ils n'ont aucune précision, quand même, sur leur culpabilité et la situation dans laquelle ils se trouvaient. Donc, c'est pour cela que nous les avons interpellés parce qu'on a mis des compagnies de gendarmerie, des unités de gendarmerie, pour non seulement assurer la police judiciaire dans les villes, les crises, mais surtout assurer la gendarmerie provinciale, qui est en fait la police de l'armée. Et je pense que c'est ce qui les a interpellés et qui sont en train d'entamer la procédure.
Le capitaine Modibo Nama Traoré, signalant que Washington a imposé des sanctions au chef du groupe islamiste Ansar Dine. Iyad Aghali est présenté par le département d'État comme un terroriste d'envergure mondiale et ses éventuels biens sous juridiction américaine seront gelés. Iyad Aghali est aussi dans le viseur du comité des sanctions des Nations Unies.
La Voix de l'Amérique vous propose Sahel Plus du lundi au vendredi à 21h15 TU, un nouveau magazine de 15 minutes consacré aux actualités et aux challenges de la région sahélienne. Présenté par Claire Morin-Gibourg et Fernand Faudzine. Sahel Plus, c'est des analyses, des enquêtes et une rubrique culture. Sahel Plus accueille vos témoignages. Sahel Plus est aussi sur 102 FM à Bamako, du lundi au vendredi à 21h15 TU.
Dans le nord du Nigeria, un porte-parole de la secte islamiste Boko Haram a démenti toute implication dans l'enlèvement de 7 Français dans le nord du Cameroun. Lundi, un groupe a revendiqué cet enlèvement, disant que c'est en représailles à l'intervention française au Mali. Notre confrère Adamu Aboubakar Gwarzo est journaliste à Kano, dans le nord du Nigeria.
C'est Cheikh Abdul Aziz Ibn Adam, celui le porte-parole actuel de Boko Haram, souvent actuellement, tout récemment, celui qui revendique. Donc, il est sorti officiellement par téléphone des mantis qui n'ont rien à voir avec l'enlèvement. Il dit souvent il y a d'autres personnes qui essayent de gâter leur nom. Ils font des dégâts avec le nom de l'organisation. Donc, eux, ils n'ont rien à voir avec l'enlèvement.
C'est quel groupe qui a revendiqué cet enlèvement alors?
Le groupe, il dit, il s'appelle Jama'atul Ahl al-Sunna Lil Awdawal Tiol Jihad. Cet groupe-là, souvent, c'est Boko Haram. On connaît Boko Haram avec le nom de cette nom, Jama'atul Ahl al-Sunna Lil Awdawal Tiol Jihad. Donc, c'est le groupe qui a revendiqué. Donc, si c'est ce groupe, souvent, nous connaissons ce groupe, c'est Boko Haram. Après la mort de le frère Mohamed Youssouf, le sheikh a changé le nom. Ils ont sorti un autre nom qui s'appelle Jama'atul Al-Sunna Lil-Da'wat Wal-Jihad. Selon lui, il a démenti. Il dit qu'ils n'ont rien à voir avec l'enlèvement. Le communiqué de Boko Haram est fait en Hausa. tout le monde qui regarde le YouTube de Boko Haram, tu sais, après la prière islamique, il faut le communiquer en Hausa. Et puis cette fois-ci, c'est la première fois que nous vous voyons le communiquer en arabe.
Cet autre groupe qui s'appelle Ansarou, qui a revendiqué l'enlèvement de 7 étrangers, dont 4 Libanais, il y a quelques jours.
Ce oui,
groupe...
Ansarou, il y avait eu des mésententes entre eux et Boko Haram. Ansarou, selon Abu Oussamotou Ansar, il soulignait que lui, il ne croit pas à la philosophie de Boko Haram. C'est pour cela qu'il a essayé de se détacher pour former son mouvement. Et puis souvent, tous les enlèvements sont réclamés par Ansarou. Mais c'est la première fois que nous apprenons que Boko Haram a fait des enlèvements. Et souvent, nous, les YouTube que nous recevons pour Boko Haram, c'est la langue Hausa qui est la langue de communication. Pour la première fois que nous trouvons un YouTube qui s'exprime en arabe.
Le journaliste Adamou Aboubakar Gwarzo, joint par Idriss Fall à Kano, dans le nord du Nigeria. Ce film ne recevra peut-être pas le grand prix du FESPACO, mais Zamana, il est temps, de la cinéaste burkinabé Zalissa Zongrana, a suscité plusieurs réactions positives après sa projection au festival de Ouagadougou. Elle dit vouloir témoigner du vécu de certaines femmes qui ont subi l'excision et apporter une contribution à la lutte déjà engagée pour abolir cette pratique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Zamana sera projetée ce mercredi à 11h, heure locale, au Ciné Burkina. La réalisatrice nous l'a décrit ainsi.
Zamana, c'est un film de 34 minutes. C'est un film qui trace l'histoire d'une jeune fille qui se fait excuser. Et 20 ans plus tard, elle refuse que sa fille subisse la même chose. Donc, c'est un film qui parle un peu de l'excision.
Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être déployés, même sur le plan international, pour que cette pratique se termine. Sous quel angle abordez-vous cette question ?
L'excision, quand même, ça vient de très longtemps. Donc, aujourd'hui, il est interdit partout dans le monde. Malgré ça, ça se pratique toujours, malheureusement. Donc, dans le film, je trace l'histoire un peu des conséquences de l'excision, dont vraiment les gens ne se rendent pas trop compte de ce que ça peut engendrer, la mort, les difficultés à l'accouchement. Donc il faudra vraiment que les gens se rendent compte des conséquences pour pouvoir arrêter ça. Parce que quelque chose qui vient de très longtemps, on ne peut pas décider un jour de dire non, on arrête ça sans vraiment se rendre compte des conséquences. Donc dans le film, par rapport à l'histoire de cette jeune fille, on voit quand même un peu les conséquences et comment elle se met pour lutter contre l'excision.
Est-ce que vous avez pu, dans le cadre de la préparation de ce film, rencontrer, interviewer oui. des filles qui ont vécu cette pratique?
Oui, effectivement, même avant que j'écris le scénario, l'idée m'est venue d'une jeune fille qui m'a parlé de son histoire, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et c'est par rapport à ça que j'ai décidé d'écrire un scénario aussi. Donc, je suis partie rencontrer des associations comme l'association GAMS, qui lutte contre l'excision, qui m'ont fait rencontrer des filles qui ont suivi ça. Et aussi l'association Femmes Solidaires. Je suis venue ici même au Burkina Faso. Et vraiment, j'ai rencontré certaines femmes qui m'ont parlé de ça. Et je ne voulais pas faire un documentaire direct parce que c'est quand même très choquant. En plus, je ne voulais pas montrer seulement ce côté douleur, mais je voulais faire une histoire que les mamans ou les grand-mères ont voulu faire ça sans vraiment au début vouloir faire du mal à leurs enfants qui engendrent ce mal, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait juste pour punir les enfants.
Concernant Zamana plus précisément, votre film, comment a-t-il été accueilli?
Le film a été très bien accueilli au FESPACO. Je n'ai pas fait de grandes études de cinéma, mais par contre, il est bien accueilli ici. Et donc, c'est ma manière aussi d'apporter une pierre déjà à les luttes qui sont déjà engagées ici au Burkina Faso. Donc, sincèrement, le FESPACO m'a ouvert la porte, grandement ouvert la porte.
J'allais justement vous demander, comment en êtes-vous arrivé au 7e art?
C'est vraiment le FESPACO qui a nourri mes rêves de cinéma. Donc, très jeune déjà, j'avais cette passion de faire du cinéma avec les grands réalisateurs qui se trouvent ici au Burkina, comme les Gaston Kaboré, les Idrissa Odrego, les Dany Kouyaté, les Pierre. C'est vraiment ces gens-là qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Parce que quand je regardais leurs films, ça me parlait, je me sentais vraiment attirée par ça. Donc, dès mon jeune âge, j'ai tapé un peu à les portes des cinéastes. Au début, j'ai commencé à vouloir être une comédienne. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de chance. Après, arrivant en France, je suis repartie faire 2 ans à l'école de théâtre pour être comédienne. Moi, j'ai joué un peu dans les films de l'école, j'ai fait un peu de la figuration dans les grands films. Et vraiment, c'est la passion qui m'a amenée là, quoi.
La cinéaste burkinabé Zalissa Zongrana, jointe à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En Tunisie, au moins 3 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'opposant Chokri Belaïd. Mais selon le ministre de l'Intérieur, Ali Larayed, appelé à former le prochain gouvernement, il ne s'agirait que de complices. L'assassin présumé aurait été identifié, mais serait en fuite. Pour faire le point, Bagassi Koura a joint à Tunis Imed Benhamida, journaliste à Tunis Hebdo.
Il y a eu 4 arrestations, 3 ont été maintenus en état d'arrestation jusque-là, et apparemment, aux dernières informations, 1 a été relâché. Par contre, l'assassin, c'est-à-dire celui qui a vraisemblablement tiré, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt, c'est-à-dire il est activement recherché par la police. Ce sont les informations qui ont été données par le ministre de l'Intérieur lui-même, aujourd'hui dans une conférence de presse à Tunis.
Alors, celui qui est recherché par la police, ce n'est pas le même qui a été relâché?
Non, ce n'est pas le même. Ils ont arrêté 4 personnes. L'une d'entre elles a été relâchée, mais aucun des 4 n'était vraisemblablement l'assassin. Donc l'assassin court toujours. L'autre information, c'est que, selon le ministre de l'Intérieur aussi, ils appartiendraient à un groupe extrémiste religieux, vraisemblablement à un groupe salafiste.
L'assassinat de Chokri Belaïd avait secoué la Tunisie. Et comment les gens réagissent maintenant à ces arrestations?
Il faut dire qu'il y a une sorte de crise de confiance pour une bonne partie des Tunisiens à l'égard du ministère de l'Intérieur. Bon, j'imagine que les gens sont toujours dans l'expectative, ils attendent, parce que les informations qui ont été données aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur ne sont pas des informations très, très, très exactes. C'est simplement le nombre de personnes arrêtées, leur appartenance à un groupe salafiste, c'est tout. Dans la rue, cela ne semble pas contenter les gens. Parce que ce qui se dit dans la rue, c'est que le problème est toujours un problème de commanditaire.
Alors, vous avez parlé de manque de confiance. Est-ce que le changement de gouvernement ne rassure toujours pas les Tunisiens?
Ah oui, même parce qu'il y a eu cette histoire de gouvernement de technocrates qui a été lancée par l'ancien, le premier ministre révolutionnaire Hamadi Djibril. Bien sûr, ni son parti, ni certains autres partis n'ont accepté l'idée. Donc ce gouvernement, il voulait faire un gouvernement de personnalité indépendante qui n'appartiendrait à aucun parti. Mais même avec ce changement de gouvernement, les gens demeurent sceptiques. C'est la peur essentiellement qui motive ce mécontentement, c'est-à-dire qu'ils ne semblent pas avoir énormément confiance en ce nouveau gouvernement.
Notre confrère tunisien Imed Benhamida. Ici aux États-Unis, le choix de Chuck Hagel comme successeur de Leon Panetta au Pentagone a été finalement entériné hier par le Sénat. On revient sur ce vote important avec Anne Albertson.
The ayes 58, nays 41. The nomination is confirmed.
Avec 58 voix pour et 41 contre, le Sénat a approuvé hier la nomination de Chuck Hagel au poste de secrétaire à la Défense, une décision qui arrive dans le contexte délicat de coupes budgétaires dont la moitié affectera la sécurité nationale. Harry Reid, leader démocrate au Sénat.
In 3 days, across-the-board cuts to defense spending are scheduled to take effect.
Dans 3 jours, des coupes sont programmées dans le budget de la Défense. Le Pentagone a besoin d'un chef pour mettre en œuvre ces coupes. Il y a 2 semaines, les Républicains avaient bloqué le vote final, demandant plus de temps pour étudier la nomination de M. Hagel. Hier, plus d'une dizaine de Républicains se sont joints aux démocrates pour mettre un terme au débat. Les clivages politiques ont cependant repris le dessus 4 heures plus tard, puisque seuls 4 Républicains ont voté pour la confirmation. Les déclarations de M. Hagel lors de son audition du mois dernier ont motivé la décision du sénateur John Cornyn.
Senator Hagel described the murderous terror-sponsoring Iranian theocracy.
Le sénateur Hagel a décrit la théocratie meurtrière en Iran comme un gouvernement légitimement élu. Ce commentaire est une gifle pour tous les militants démocrates iraniens qui risquent leur vie pour combattre la dictature et promouvoir la liberté. On ne devrait pas confier le poste de secrétaire à la Défense à quelqu'un qui n'est clairement pas fait pour ce poste. M. Cornyn et d'autres républicains ont aussi critiqué les positions de Chuck Hagel sur le programme nucléaire de l'Iran et sur l'influence israélienne sur la politique américaine. Pour les démocrates, ces déclarations ont été mal interprétées et sorties de leur contexte. Le sénateur Carl Levin a mis l'accent sur la carrière de M. Hagel dans l'armée.
Senator Hagel would be the first former enlisted man.
Le sénateur Hagel sera le premier conscrit et le premier vétéran du Vietnam à servir en tant que secrétaire à la défense. Ce parcours donne au sénateur Hagel une précieuse vue d'ensemble. Chuck Hagel succède à Leon Panetta, qui avait pris ses fonctions en 2011.
La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui, la page sportive avec Nicolas Pinault.
Et l'on commence par du football. La bombe des frères Ayew au Ghana. Jordan et André ont décidé de renoncer au moins temporairement à la sélection nationale. Comme l'a fait récemment Kevin Prince Boateng, les deux fils d'Abedi Pelé entendent se consacrer exclusivement à leur club, à savoir l'Olympique de Marseille. Dans son courrier à l'instance dirigeante publié par Ghana Soccernet et d'autres organes de presse ghanéens, André Ayew fait état de nombreux problèmes survenu récemment et affectant la relation avec le staff de l'équipe nationale. L'Inter de Milan a été condamné à payer une amende de 50 000 euros suite aux cris et chants racistes envers le joueur Mario Balotelli, entendu à San Siro face au Milan AC, c'était dimanche soir. Et en ballottage défavorable, après le match nul à l'aller un partout, le Real de Madrid a superbement retourné la situation hier soir au Camp Nou. Victoire 3-1 contre Barcelone pour s'offrir une place en finale de la Coupe du Roi, doublé de Cristiano Ronaldo et but de Varane pour le Real. Le président de la Ligue française de football professionnel, Frédéric Thirier, a remis hier au ministre gabonais des Sports la coupe qui sera offerte au vainqueur du Trophée des champions qui se disputera le 3 août prochain à Libreville. Le Gabon est le premier pays d'Afrique subsaharienne francophone à ouvrir ses pelouses au vainqueur de la Coupe de France et de la Ligue 1. Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain, la nuit dernière, Orlando s'impose à Philadelphie 98-84, Indiana domine Golden State 108-97. Miami, leader à l'Est, bat Sacramento 141-129 après deux prolongations et 38 points de LeBron James. Sur le fil, Chicago chute sur son parquet devant Cleveland 101-98. Les Nets de Brooklyn l'emportent devant la Nouvelle-Orléans 101-97. Enfin, Milwaukee est allé battre Dallas 95-90.
Nicolas reste en notre compagnie pour le rappel des titres.
À retenir ce matin, cette voiture piégée qui a explosé hier soir à Kidal, dans le nord du Mali, ville où des troupes françaises sont présentes. L'attentat suicide aurait fait plusieurs morts, selon différentes sources. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Et les États-Unis ajoutent à leur liste antiterroriste le chef du mouvement islamiste Ansardine. Iyad Agali est visé pour ses liens étroits avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ses avoirs éventuels aux États-Unis sont gelés et les Américains n'ont plus le droit d'effectuer des transactions avec lui. À Conakry, Alpha Condé a confirmé hier la nomination du général de brigade Namori Traoré au poste de chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Et la Maison-Blanche appelle Mohamed Morsi à protéger les principes démocratiques à l'approche des prochaines élections en Égypte. Selon le communiqué, Barack Obama a téléphoné à son homologue égyptien. Enfin, vous l'avez dit, le Sénat américain a confirmé hier la nomination de l'ancien sénateur du Nebraska, Chuck Hagel, au poste de secrétaire à la Défense.
Merci Nicolas Pinault pour les sports et le suivi de l'actualité. Ici s'achève cette édition mise en onde par Anne Albertson. Au micro, Chérubin Dorsil. Passez une excellente journée.
Notre émission est maintenant terminée. Nous diffusons tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU. Ici Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.